Une explosion. Un coup de grisou a eu lieu dans la mine de charbon. Très vite, les secours s'organisent, les sauveteurs se mettent à l'œuvre et arrivent à dégager tous les gravats qui les séparent des hommes emprisonnés au fond de la mine. Après plusieurs heures d'efforts, ils les atteignent et leur premier souci est de rétablir le courant électrique. Tout le monde paraît sain et sauf, mais l'un des mineurs dit alors: pourquoi ne remettons pas la lumière? Tous les autres le regardent avec effroi, car ils comprennent que l'explosion a rendu leurs collègues aveugles. Tout comme ce mineur, Ninive a connu la lumière quand le prophète Jonas est venu les menacer du jugement de Dieu. Alors, comme un seul homme, tous ses habitants se sont repentis de leurs mauvaises œuvres. Mais ça n'a guère duré et les Assyriens sont rapidement tombés dans leur vice habituel. Dans l'Évangile, selon Matthieu, on lit que Jésus dit: si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Comme la lumière que Ninive a reçue du prophète Jonas est devenue ténèbre, sa condition présente est pire qu'avant que ce prophète ne vienne, ce qui la rend mûre pour le jugement. Je finis de lire le second chapitre du livre de Nahum. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Il est certain que la destruction de Ninive aura lieu parce que c'est Dieu lui-même qui la dirige. L'expression « j'en veux à toi » apparaît souvent dans l'Ancien Testament. Elle est toujours dirigée contre une ville ou un roi et son peuple. C'est de cette façon que l'Éternel menace Jérusalem et Juda. Et Sidon, les deux principales villes phéniciennes, Édom, où habitent les descendants d'Ésaü, le pharaon, Gog et Magog, et enfin Ninive est à deux reprises. La fureur de Dieu contre l'Empire assyrien est très forte. Il va mettre le feu à ses chars de guerre, c'est-à-dire à toutes ses armes. Il va aussi tuer ses jeunes lions, c'est-à-dire les soldats, et délivrer toutes les nations de l'impérialisme du roi d'Assyrie, car sa fin est décrétée. Ce roi n'enverra plus jamais l'un de ses émissaires qui fait trembler les peuples par ses menaces, qui ordonne aux nations de capituler sans condition, qui leur impose un lourd tribut et qui blasphème l'Éternel. Ceux qui dévoraient seront dévorés à leur tour, et Ninive ne fera plus jamais sa proie des autres nations. Nous arrivons maintenant au chapitre 3 du livre de Nahum, qui poursuit la sentence du jugement. La description de la destruction de Ninive est toujours très imagée. Le langage particulièrement vigoureux et les émotions intenses. Je commence de lire ce chapitre. Malheur à toi, ô ville, qui te repais de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ses rapines. Le mot malheur est une interjection qui annonce une catastrophe imminente. Nahum précise les raisons pour lesquelles Ninive est détruite par l'Éternel. C'était une ville de sang, parce que les Assyriens le versent sans aucune retenue. Mais ils ne sont pas les seuls, en effet, et assez curieusement, le prophète Ézéchiel fait les mêmes reproches à Jérusalem quand il dit « Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de vert-de-gris, et dont le vert-de-gris ne s'en va pas. » C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci: malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je dresserai un grand bûcher. À Babylone, aussi Dieu reproche le sang versé. Le prophète Habacuc écrit: malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Les annales assyriens nous font découvrir que jamais peuple ne fut aussi rapace dans ses conquêtes. aussi tyrannique dans son gouvernement, aussi cruel dans ses guerres et dans la répression des révoltes. Une ville attaquée qui osait résister était traitée comme un crime de lèse-majesté et punie avec la pire des barbaries. Les responsables de la ville étaient donnés en spectacle écorchés vifs ou empalés. La cruauté des Assyriens est attestée par des monuments sur lesquels on voit ou on peut lire comment les prisonniers de guerre étaient empalés, écorchés vifs, décapités, traînés par des anneaux passés dans leurs lèvres, pendus par les mains ou les pieds, ou avaient les yeux arrachés. D'autres étaient battus à mort et avaient leur langue, leurs membres arrachés, les oreilles et le cou coupés. Des inscriptions royales exultent en mentionnant le nombre d'ennemis tués, de captifs déportés, de villes laminées, pillées ou brûlées, de terres dévastées et même d'arbres fruitiers coupés. C'était vraiment de la barbarie gratuite pour le plaisir d'être méchant et cruel. Non seulement Ninive est une ville qui se repaît de sang, mais Nahum lui reproche aussi d'être pleine de fraude et d'extorsion. Ayant découvert que la fourberie est un raccourci vers le succès, les Assyriens ont perfectionné l'art de la traîtrise. Pour étendre leur hégémonie, conquérir de nouvelles nations et amener des peuples à se soumettre à eux sans combattre, et ils font des promesses qu'ils ne tiennent évidemment pas, de toute évidence. C'est la tactique mensongère de l'émissaire royal Rachaké, quand il dit au messager d'Ézéchias, roi de Juda, « Voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, alors chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé, du vin, du pain et des vignes. » Étant donné leur puissance militaire, les Assyriens ne sont pas obligés d'user de tromperies pour étendre leur empire. Mais ce comportement, tout comme la cruauté envers les vaincus, fait partie de leur soif insatiable de pouvoir, soif de dominer les autres nations par n'importe quel moyen, car ils n'ont que mépris pour les autres peuples. En troisième lieu, Nahum reproche à Ninive toutes ses rapines. Le mot pour rapine peut aussi être traduit par découper en lanières, ce qui correspond à la manière dont les lions dévorent leur proie. Ninive accumule les richesses pillées sans jamais s'arrêter, car elle n'en a jamais assez. Cette soif de posséder est tellement forte que les Assyriens décorent leur monument avec des scènes montrant le butin des nations vaincues, celles qu'ils ont amenées à Ninive. Je continue le texte. Fouet qui claque, fracas des roues, des chevaux au galop, déferlement de chars, charge des cavaliers, flamboiement des épées, éclairs des lances, blessés sans nombre, à mort de corps, à perte de vue, des cadavres, on trébuche sur eux. Pour bien rendre la rapidité de l'action, il observe dans sa vision prophétique, Nahum utilise une succession d'exclamations brèves sans aucun verbe. Les chariots de guerre sont tirés par un, deux ou trois chevaux, et les fouets est constitué de simples bouts de cuir munis d'un manche. Nahum décrit l'avance de l'armée conquérante, et plus particulièrement la cavalerie. Il entend d'abord le bruit lointain, du claquement des fouets des conducteurs de chars de guerre, le bruit des roues qui bondissent sur les chemins accidentés, et le galop saccadé des chevaux lancés à toute vitesse. Le vacarme se rapproche, l'armée apparaît, les fantassins brandissent leur épée ou leur lance, la bataille s'engage. Cette description est la scène de bataille la plus vivante de la littérature hébraïque. À peine a-t-on le temps de voir arriver les armées des Mèdes, des Babyloniens et des Scythes que tout est déjà fini. Ils ont déferlé comme un tsunami ne laissant derrière eux que des monticules de blessés et de cadavres. Ces derniers sont tellement nombreux qu'on ne peut pas éviter de trébucher sur eux. Même les envahisseurs sont freinés dans leur avance par cet amoncellement de victimes. La scène décrite par Nahum est pire que les champs de bataille napoléoniens ou la boucherie de la guerre de tranchées de 14-18. Parfois, je me demande que sont devenues les âmes de ces jeunes gens qui, à 20 ans, à peine, sont tombés au champ d'honneur, comme on dit. Je n'ose pas trop y penser. Je continue le texte. Tout cela, c'est à cause des nombreuses débauches, de la prostituée à la beauté si séduisante, experte en sortilèges, qui asservissait les nations par ses prostitutions, de même que les peuples par ses enchantements. Cette accusation portée par Nahum contre Ninive en rappelle une autre, celle de Jéhu, roi d'Israël Nord, à l'encontre de Jézabel, mère de Joram, roi de Juda. Dans ce passage, Jéhu dit à Joram, « Comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère, Jézabel, et ses innombrables pratiques de sorcellerie ?» Quand les prophètes de l'Éternel appellent l'idolâtrie une prostitution, ils adressent leurs reproches au peuple d'Israël parce qu'ils abandonnent son Dieu pour suivre les idoles. Appliqué à Ninive, ville païenne, le terme prostitution a deux sens. Premièrement, il a la même signification que pour Israël et pour tout homme qui n'adore pas l'Éternel parce que, comme Paul l'écrit aux Romains, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe aussi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Il importe peu que quelqu'un soit juif, assyrien ou français, que nous soyons nés catholiques, protestants, musulmans ou autre chose. Nous sommes tous logés à la même enseigne et devons tous adorer notre Créateur et lui seul. Les Assyriens partent en guerre au nom de leur fausse divinité, et leurs rois prétendent être sous l'influence et la protection de leur Dieu. Partout où ils vont avec leur armée, ils prennent grand soin d'ériger les symboles de leurs idoles, puis ils obligent les peuples conquis à les adorer. De plus, le culte que les Assyriens vouent aux faux dieux est souvent accompagné d'une immoralité tellement grotesque que même l'historien grec Hérodote, qui n'a pourtant rien d'un puritain, la qualifie de totalement indigne. Le temple dédié à Ishtar, la déesse du sexe et de la guerre, qui comprend de nombreuses prostituées sacrées, est particulièrement populaire et très fréquenté. Imaginez pourquoi. Deuxièmement, Ninive s'est encore prostituée d'une autre manière, par la fascination que la ville exerce sur les peuples à cause de sa splendeur et de sa magnificence inégalée, à cause de ses charmes, de sa puissance, sa richesse, sa culture, et la perfidie avec laquelle elle traite tous ceux qui tombent dans son giron. Par la traîtrise et une politique de fourberie, Ninive piège les autres nations. Elle attire à elle les hommes par la force ou la ruse, afin de les assujettir et les soumettre à ses dieux. Quand une nation, séduite par les enchantements de cette capitale, se livre à elle, parfois en retour, Ninive la trahit sans pitié en vendant ses habitants comme esclaves. Les Assyriens pratiquent la sorcellerie, ils possèdent des centaines d'incantations avec lesquelles ils essaient de prédire l'avenir et d'influencer le cours de la vie. Ils lisent des messages dans le vol des oiseaux, dans les mouvements des animaux et des nuages, ainsi que dans les rêves. Je continue le texte. « Je veux m'en prendre à toi, l'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes, et je vais retrousser tous les pans de la robe jusqu'à sur ton visage. Je t'exhiberai nu à toutes les nations. J'exposerai ta honte devant tous les royaumes. » L'Éternel se dresse contre Ninive, comme il le fait contre toute nation ou tout individu qui méprise son autorité et la valeur de la vie humaine. Le même jugement est prononcé contre Jérusalem, puis contre Babylone. Ninive, la prostituée, subira un traitement infamant et sera dépouillée de tout ce qui fait son charme. Ses actes odieux qu'elle a commis contre les nations seront payés en retour par sa mise à nu, c'est-à-dire par la destruction et le pillage de toutes ses richesses. Dépouillée de tout son luxe, elle sera insultée et offerte en spectacle au monde. Ce sort humiliant rappelle ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale envers les femmes qui avaient fricoté avec les nazis. On leur rase les cheveux et, à peine vêtues, on les expose dans les rues aux habitants et aux passants qui les insultent et se moquent d'elles. Je continue le texte. « Je jetterai sur toi des masses d'immondices, et je t'avilirai. Je ferai de toi un exemple. » Ce mot pour « immondice » est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner tout ce que l'Éternel considère comme détestable. Ce traitement avilissant doit servir d'exemple afin que jamais plus aucune autre nation ne se comporte comme l'Empire assyrien. Cependant, ceux qui lui ont emboîté le pas n'ont pas manqué. Il y a eu Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, les empires européens, les petits chefs africains ou orientaux qui se prennent pour le potentat dernier cri. Et ça ne finira jamais car la stupidité humaine, ses convoitises et son potentiel à mal faire n'ont pas de limite. Cependant, le jour vient où Dieu tirera enfin le rideau et Jésus reviendra pour instaurer et imposer son règne de 1000 ans sur le monde entier. Mais jusqu'à cette date prévue dans le calendrier divin, tout continuera comme aujourd'hui. Tous les beaux discours qu'on entend ici et là sentant la sciure, et il n'y aura pas de véritable changement, et en aucun domaine. Les hommes continuent à crier « paix, paix !» Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas dénoncer des injustices, au contraire, parce qu'ils sont le sel de la terre. Les croyants doivent utiliser tous les moyens légaux pour les faire cesser. Cependant, la justice ne régnera pas d'un horizon à l'autre avant que Jésus ne vienne l'établir. Je continue. Tous ceux qui te verront s'enfuiront loin de toi en criant « Ninive est détruite !» Qui aurait pitié d'elle ? Pour toi, où chercherais-je des champs pour te réconforter ? Comme tous les peuples ont eu à souffrir de la cruauté et de la perfidie de Ninive, nul ne lui viendra en aide, et tous l'abandonneront comme on se détourne de tout ce qui inspire le dégoût. Bien sûr, ceux qui ont profité de ses richesses la regretteront, mais ne voulant pas être éclaboussés par sa ruine, ils se tiennent à bonne distance. C'est aussi ce qui se passera pour Babylone, qui à la fin des temps renaîtra de ses cendres. Elle tombera. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ses tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Les objets de tes passions ont fui loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ses tourments. Ils pleureront et amèneront deuil. Ils diront « quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles !» Le livre de l'Apocalypse reprend et réactualise les oracles de Nahum ainsi que les oracles d'autres prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Jean applique ses jugements à Babylone, la nouvelle grande puissance qui, telle le phénix légendaire, renaît de ses cendres. Nouvel empire totalitaire fascinant le monde, cette Babylone de la fin des temps sera comme Ninive, une prostituée qui entraîne les autres nations dans ses débauches. Comme Ninive, Babylone sera punie pour ses crimes et connaîtra une ruine totale. Le châtiment de ces deux capitales est typique du jugement qui frappe toutes les grandes nations et empires dominants de ce monde. Comme Rome, qui au premier siècle est déjà une préincarnation de la grande Babylone de la fin des temps. À la vision de Nahum du jugement de Ninive par l'Éternel, répond la vision du cavalier de l'Apocalypse montant un cheval blanc, qui se nomme la parole de Dieu, qui combat pour la justice et qui vient pour juger le monde et assouvir ainsi l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Les jugements de Ninive et des empires qui l'ont suivi sont un avant-goût du jugement final, car ce sont aussi des avertissements qui nous rappellent que Dieu jugera les actions de tous les hommes. En ce jour-là, il n'y aura aucune échappatoire possible, sauf pour ceux qui auront cherché refuge sous la croix du Christ.